Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée de Tienne sur Twitch, c'est la revue de presse tous les matins que je fais depuis 5 ans. Et on voulait avec la commu, d'ailleurs la commu sur Twitch va dire bonjour à YouTube. Amis de YouTube, n'hésitez pas à faire coucou Twitch aussi. Hop, hein, communauté, hop, cohésion, sympathie, chaleur. Et avec la commu sur Twitch, on s'est dit qu'on mettrait bien en avant cette histoire de choc pétrolier. Est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Quelqu'un dans le chat me dit, oh là là, il y a une guerre et tout, et on parle de l'augmentation du prix à la pompe. Bah non, c'est pas que ça, c'est pas juste l'augmentation du prix des carburants. Un choc pétrolier, c'est quand c'est l'hypothèse où l'économie tout entière, française, européenne, mondiale, serait impactée par cette crise pétrolière. Avec des conséquences sur l'inflation, sur le prix des biens, sur la vie des entreprises, sur l'activité et après sur l'emploi. C'est ça, ce qu'on appelle un choc pétrolier. Alors, est-ce qu'on va vers ça? On n'en est pas là. Lisons. Le spectre d'un choc pétrolier, c'est la lune de la croix. La guerre au Moyen-Orient fait naître la crainte d'une crise économique, voilà. Alors que les prix du pétrole sont bas, les marchés s'affolent et les États s'inquiètent. Le choc, c'est quand il y a un engrenage tout à fait Mitsuhiko. Doit-on craindre un nouveau choc pétrolier? Je trouve que parmi tous les dossiers qu'il y a ce matin dans la presse, celui de la croix est peut-être le plus simple. Avec la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Hormuz, par lequel passe, on le rappelle, 20% du pétrole mondial, le spectre d'un nouveau choc ressurgit. Le prix du pétrole s'emballe, les marchés s'affolent, on a un prix du baril qui est monté à 120$, qui s'est stabilisé autour de 100$, je crois, mais qui a monté très fort, très vite. Dans le chat, ils vont me dire à quel niveau est le baril du pétrole actuellement, parce qu'ils sont incroyablement forts. Le prix du pétrole s'emballe, les marchés s'affolent, les États s'inquiètent, mais les conséquences de la crise dépendront avant tout de la durée du conflit. 90 aujourd'hui, c'est un petit peu redescendu? Non, il est monté à 120. Un tel choc pétrolier peut-il vraiment avoir lieu? D'abord prudent, les marchés de matières premières ont fini par céder. Depuis lundi 9 mars, la retenue a laissé place à l'emballement. Le prix du baril a brièvement dépassé les 119$. Hein, vous me dites qu'il est à 91 à peu près maintenant, 91. Son pic depuis l'été 2022, faut remonter à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 2022, pour avoir ce niveau du prix du baril de pétrole. Le 27 février, à la veille de l'attaque israélo-américaine, le baril se vendait juste en dessous de 73$. 10 jours plus tard, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il avoisine les 101$. Ça, c'était hier. Nous cochons donc 2 des 3 cases constitutives d'un choc pétrolier. Hausse brutale, hausse importante. 2 cases sur 3. C'est ce qu'indique Francis Perrin, qui est directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du gaz et du pétrole. Mais elle ne s'inscrit pas encore dans le temps. La troisième case, vous l'avez compris, il faut que ce soit une hausse brutale, une hausse importante. Effectivement, comme dit Nix, il vous manque une case. Enfin, non, pas à vous, mais il nous manque une case. Et la case, bien sûr, c'est que cette crise dure dans le temps. Elle ne s'inscrit pas encore dans le temps, or ce sont des cours durablement élevés qui pénalisent l'économie mondiale. Lorsqu'on parle de choc pétrolier, une mise en perspective est nécessaire. Le dernier en date, c'est celui qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est 2022, puisque la guerre dure depuis 4 ans. Enfin, l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 4 ans. Sur toute l'année 2022, le prix moyen du baril de Brent a été de 86$. Et heureusement, on en est encore loin, poursuit François Perrin. Vous venez de me dire que le baril, là, actuellement, à l'heure où on parle, il est autour de 91€. Bon, sur l'année 2022, on était quand même à 86$. 86$ sur l'année. Là, on était en crise. Même chose, alors il y a le pétrole, il y a le gaz naturel aussi. Même chose pour le gaz naturel, dont les tarifs, eux aussi, décollent. Le contrat TTF néerlandais, l'unité de référence dans l'Union Européenne, affiche actuellement un prix de 59€ le mégawattheure, 37€ le 27 février. Nom de Dieu! On était tout de même monté à 339€ le mégawattheure à l'été 2022. Contextualise Francis Perrin, parce que Francis Perrin, il peut contextualiser aussi. Hein.
Faut avoir la ref. Donc là, 59€, c'est quand même monté à 339. Le gaz, c'est la folie. Hein.
Quelle piste pour limiter la hausse des prix? Alors là, tout le monde y va de sa petite proposition, tous les partis politiques, c'est toujours la même. Alors, moi, je sais ce qu'il faut faire. Faut faire ci, faire ça, baisser cette taxe, machin, tout. Bon.
À chaque fois, c'est la même. Quelle piste pour limiter la hausse des prix? En déplacement à Chypre lundi. Donc à Chypre, il n'y a pas que des influenceurs en carton-pâte qui vendent des formations hors de prix sur internet tout en ne payant pas d'impôts en France. Il y a aussi le président qui était en déplacement. Faut avoir la ref. En déplacement à Chypre lundi 9 mars, Emmanuel Macron a assuré travailler à une mission internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Hormuz avec des partenaires européens et non européens. Alors c'est mignon ça, ce vœu du président Macron de rouvrir le détroit d'Hormuz, sauf que c'est plus facile à annoncer, enfin à souhaiter qu'à faire quoi. Paris évoque des discussions avec l'Inde et d'autres pays asiatiques. L'idée est de s'inspirer de l'opération européenne Aspide menée depuis 2024 en mer Rouge pour protéger les navires des attaques des rebelles yéménites houthistes, les Houthis, avec une coalition emmenée par les États-Unis. Mais dans le détroit d'Hormuz, explique la Croix, la situation est plus complexe qu'en mer Rouge, compte tenu du niveau d'armement de l'Iran. Les experts militaires mettent en avant la menace de drones, de mines, ou encore de sous-marins de poche iraniens dont on ignore s'ils ont tous été détruits. En fait, ce que les pays concernés n'arrivent pas à mesurer, c'est quelle est la réelle menace iranienne sur le détroit d'Hormuz. Sous-marins, sous-marins de poche, mines, drones. Outre une option militaire pour assurer la sécurité des pétroliers et méthaniers transitant par ce détroit, ces navires transportent habituellement 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommé autour du globe. Je disais du pétrole, mais il y a aussi le gaz naturel liquéfié. L'eau, alors, donc il y a cette piste de la réouverture du détroit d'Hormuz, mais vous avez compris que c'était un peu compliqué, même très compliqué. Et puis il y a une autre piste qui est l'utilisation des réserves stratégiques en pétrole des pays affiliés à l'OCDE, créé en 74 au lendemain du premier choc pétrolier. Les plus jeunes, vous connaissez pas ça, mais il y a eu un choc pétrolier très important en 74. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, impose à ses 31 membres de détenir en permanence des stocks stratégiques équivalents au moins à 90 jours, 3 mois, de leurs importations nettes de pétrole de l'année précédente. La France, par exemple, détient 118 jours de réserves pétrolières. Alors c'est même un peu plus. Via un vote de ses membres, l'AIE peut alors décider de débloquer une quantité précise de barils pour prévenir les pénuries ou faire baisser les prix sur le marché mondial en gonflant l'offre. Quand je vous disais que le dossier de la Croix était vraiment très clair, moi je trouve que c'est extrêmement clair. Oui, t'as raison, c'est 73 le choc pétrolier. Melchior, 74. Oui, t'as raison. Le choc pétrolier, c'est 73. Pardon, Melchior. Bien vu. Ce scénario s'est déjà produit plusieurs fois, nous explique la Croix. Guerre du Golfe, 91. Donc là, où l'AIE a débloqué donc des réserves de pétrole pour faire baisser les cours. Ouragan Katrina, 2005. Intervention occidentale en Libye, 2011. Invasion de l'Ukraine, 2022. Incroyable, hein. Un truc a été inventé au lendemain du premier choc pétrolier. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché, mais on n'en est pas encore là, a déclaré le 9 mars le ministre de l'économie Roland Gescure au sortir d'une réunion du G7. Ok. Donc la première question c'était quelle piste pour limiter la hausse des prix ? Conséquences éventuelles pour l'économie mondiale. Encore une fois, quelqu'un dans le chat me disait tout à l'heure, je comprends pas, il y a une guerre, on me parle de la hausse de mon plein d'essence. Eh ben non, ce n'est pas que ça. C'est toute l'économie qui peut être éventuellement impactée. Un baril qui dépasse le seuil critique des $100 réveille les souvenirs des grands basculements macroéconomiques, explique John Plassard, qui bosse dans une banque suisse, avec à chaque fois les mêmes effets en cascade. La flambée des cours alimente une hausse généralisée des prix à la consommation qui se répercute sur l'ensemble de l'économie en augmentant les coûts de production de la plupart des secteurs d'activité parce que le pétrole. L'énergie issue du pétrole, elle sert dans plein de filières, vous le savez, et dans certains pays encore plus que d'autres, et renchérit l'achat des produits importés. En bout de chaîne, les ménages risquent de voir leur pouvoir d'achat réduit. La volatilité accrue du baril alimente également l'incertitude, ce qui freine les décisions d'investissement et d'embauche et peut amplifier le ralentissement. Clac ! D'une crise pétrolière à une crise économique. Tous les pays, cependant, c'est ce que je vous disais à l'instant, ne présentent pas la même vulnérabilité, du moins dans un premier temps. L'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. Ce matin, au petit-déj, Malo, 9 ans, qui était en pleine révision de son exposé sur Zelda, et entre deux Zelda, il me dit « Tu sais, papa, on parle beaucoup de la guerre en Iran. » Je lui dis « Ah bon ?»« Bah oui, à l'école. Et la crise du pétrole, là. » Je dis « Ok. » Et il me dit « Je crois que ce sont les pays asiatiques, surtout, qui sont très embêtés. » Je dis, ok, c'est le matin, je suis dans le gage, qu'est-ce qu'il dit ? Et dans la Croix, je lis, l'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. Il a 9 ans. Il m'a appris un truc ce matin. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants ? Vous leur donnez quoi à nos enfants à la cantine ? Donc, Malo avait raison. L'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. 38% du pétrole qu'achète la Chine passe par le détroit d'Hormuz contre 3% que celui qu'importe l'Europe. Mais les cours du gaz et du pétrole sont mondiaux et les pays européens n'échapperaient pas à une envolée durable des cours. Rappelle Nicolas Leclerc, fondateur du cabinet Omnegy. Cet expert fait remarquer que les prix de l'électricité sur le marché à court terme, eux aussi ont grimpé de 25% en une semaine, car ils sont calés ces prix sur les prix du gaz dans les périodes de pointe.
Waouh.
Vous voyez l'engrenage qui est en train de se mettre en place ? La crise énergétique se transforme alors en crise économique et en crise financière avec la dégringolade des marchés actions. Let's go ! Les taux d'intérêt des dettes souveraines ont d'ailleurs recommencé à grimper un peu partout en Europe. Lundi 9 mars, avec la crainte d'un regain de l'inflation, très vite les banques centrales seront alors confrontées à un dilemme : lutter contre l'inflation importée ou soutenir la croissance qui fléchit. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on augmenterait les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation ou est-ce qu'on baisserait les taux d'intérêt pour soutenir la croissance qui fléchit ? Ah oui, parce qu'on est face à une stagflation, l'enfer. Alors, ce scénario catastrophe que je viens de peindre, attention, il faut savoir raison garder, hein. Ce scénario catastrophe suppose néanmoins que les prix du pétrole et du gaz restent durablement élevés, avec un conflit qui s'enlise et des capacités de production durablement amoindries par les frappes aériennes. Donc quand on se pose la question, depuis plusieurs jours, combien de temps va durer le conflit ? Est-ce que c'est quelques semaines ? Est-ce que c'est peut-être plusieurs mois ? Est-ce que Trump ne va pas reculer sous la pression de l'opinion publique américaine, du Congrès, alors qu'on approche des élections de mid-term, de mi-mandat aux États-Unis ? Ah, bah dans ce cas-là, ça pourrait éventuellement enrayer ce mécanisme de crise. Par exemple, vous avez Philippe Crevel, qui est directeur des cercles de l'épargne, qui dit la guerre en Iran devrait être relativement courte. D'où tu sais ça, toi ? Philou, je t'aime bien, mais c'est pas une boule de cristal quand même. Avec les élections de mi-mandat en perspective, Donald Trump souhaite sans nul doute un conflit limité dans le temps. Alors, Philippe, t'es en train de nous dire que tu sais ce que pense Trump. Philou, je te rappelle que Trump ne sait pas ce qu'il pense lui-même. Selon cet expert, le pétrole pourrait très vite revenir autour de $60 le baril, son prix d'équilibre avant le début du conflit. Et ce surtout si les sanctions à l'encontre de l'Iran sont levées, puisque l'offre serait supérieure à la demande. Pour les mêmes raisons, les cours du gaz redescendraient rapidement. J'aime bien ce petit pari sur un conflit court, mais t'en es où le Boursorama, là, la bourse ? Ça s'enflamme, plus 2%, la bourse de Paris. Oh, j'ai tout ici, le pétrole, $90 le baril. Ok, c'est un peu apaisé, et toutes les places boursières sont un petit peu en hausse, le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, le DAX, l'Eurostock 50. Donc les marchés financiers seraient un petit peu optimistes ce matin. Alors maintenant, on va parler des prix à la pompe. Mais vous avez bien vu que c'est quelque chose de différent, quoi. Là, actuellement, à court terme, le premier truc, c'est que le prix du plein augmente. En France et ailleurs. Que faire par rapport à ça et par rapport à l'éventualité d'une crise économique? Là, c'est l'article qui est à droite, là, dans la croix, ce que peut faire le gouvernement, avec toutes les propositions des oppositions, bien sûr, qui, elles, savent ce qu'il faut faire. C'est normal, c'est le jeu démocratique, quoi. En réaction à la flambée des prix à la pompe et aux craintes d'un choc pétrolier, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs partis appellent l'exécutif à agir sur les tarifs du carburant. Diverses options sont envisageables. Le gouvernement assure renforcer les contrôles dans les stations-service. De l'offensive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran aux stations essence françaises, il n'y a qu'un pas. Alors que le conflit se répercute sur les pays du Golfe et le blocage du pays du détroit d'Ormuz, les prix à la pompe bondissent en France. Lundi, le SP95, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait en moyenne 1,84€, soit une hausse de 5%, ce qui est beaucoup, hein, en une semaine, tandis que le gazole atteignait le seuil de 2€ le litre. Sous pression, Le Cornu, Premier ministre, a annoncé dimanche 500 contrôles dans les stations-service par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, pour éviter des hausses abusives des prix à la pompe. Je lisais un article ce matin. 500 contrôles annoncés par le gouvernement, réalisé par les inspecteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes. Pour contrôler quoi? Le prix des carburants, qui sont publics, qui sont affichés. Il n'y a rien à contrôler, c'est public. C'est pas que c'est rien, ça se contrôle, c'est que ça sert à rien. Ils sont pas cachés, ces prix. Ils sont affichés. L'édito que je disais ce matin, je ne l'ai pas mis de côté, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est les prix libres. Alors tu peux râler. Les prix sont envoyés à l'État, c'est pour vérifier que ça correspond vraiment à ce qui est vraiment à la pompe. Ah, tu penses que parfois ils mentent un petit peu? Ah, je l'avais pas. Mr. Little Cat me dit pour contrôler que le prix déclaré est le même que le prix pratiqué. Ah, tu crois que parfois il y en a qui déclarent pas le bon prix? Ah, il y en a qui trichent. Eh ben dis donc, il y en a un qui était monté à 2,50€ et après contrôle était descendu à 2,20€.
Quelle indignité.
Mais sérieux, mais c'est pas bien ça. 6% ont été verbalisés. D'autres annoncent 1,90€, t'arrives à la pompe, c'est 2,10€. Oh putain, c'est pas cool ça. Eh ben je retire ce que j'ai dit. C'est dingue. Pour éviter des hausses abusives des prix à la pompe. Non, c'est pas pour éviter des hausses abusives alors. C'est pour éviter que certains mentent sur la déclaration qu'ils font à l'État. Pour le reste, la ministre déléguée à l'énergie et la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, estimait lundi qu'il était encore trop tôt pour instaurer des aides ciblées, même si tous les scénarios étaient étudiés. Ce que beaucoup de partis d'opposition demandent là, c'est des baisses de taxes, des aides. Car à quelques jours du comme par hasard, à quelques jours du premier tour des municipales, plusieurs partis, dont le RN et LFI, réclament de l'exécutif des actions franches pour épargner le portefeuille des Français. Le premier, donc c'est RN, via une baisse des taxes sur le carburant. Les seconds, LFI, grâce au blocage des prix à la pompe. L'article L410.2 du Code de commerce permet en effet au gouvernement de plafonner par décret le prix de certains produits, ça c'est déjà fait, hein, pour une durée maximale de 6 mois, dans certaines circonstances exceptionnelles, tiens, ça avait déjà été fait en 2020, en juillet, en pleine crise sanitaire, pour le prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. La mesure n'a cependant pas été appliquée au prix de l'essence depuis août 90, ça remonte, au moment de la guerre du Golfe, en raison notamment de son coût pour les finances publiques, ça coûte un pognon de dingue. En cas de plafonnement, l'État doit compenser intégralement les pertes des distributeurs et raffineurs. Donc finalement, c'est pas l'automobiliste qui paie la différence, c'est le contribuable, c'est l'impôt. Alors, contribuables et entreprises aussi, bien sûr, impôt sur les sociétés, il n'y a pas que le citoyen qui contribue, bien sûr. Lors du choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine, le gouvernement avait privilégié un rabais, donc c'était pas un plafonnement, appliqué directement sur les prix à la pompe. Pendant 9 mois en 2022, les automobilistes avaient donc bénéficié d'une réduction en caisse non visible sur les prix affichés en station, variant de 10 à 30 centimes par litre selon les mois, plus facilement maîtrisable du point de vue du budget. Cette ristourne pourrait être un levier d'action en cas de niveau des prix durablement élevé. La mesure avait en 2022 coûté à l'État 7,5 milliards d'euros, selon le ministère de l'économie. C'est pas rien, 7,5 milliards. Hein. Le RN défend, quant à lui, une baisse des taxes sur le carburant. Après avoir accusé le gouvernement, moins de 48 heures après le début de l'opération israélo-américaine, de profiter de l'explosion des prix sur l'énergie pour s'enrichir sur le dos du contribuable, en cause le poids des taxes sur les carburants, estimé à environ 55% du prix total par Bercy. Les recettes de la TVA étant proportionnelles au prix, l'association 40 millions d'automobilistes dénonce un hold-up fiscal. Elle réclame donc un abaissement immédiat de cette taxe à 5,5% afin d'aligner la fiscalité des carburants sur celle des produits de première nécessité. Maud Bréjon a déjà jugé cette proposition inconcevable au regard de son coût pour la puissance publique, estimé selon elle à 20 milliards d'euros. Alors, elle est belle cette mesure, mais elle coûte 20 milliards d'euros. Reste une autre piste, jusqu'ici absente du débat et plus complexe, celle d'une taxe flottante. Cette solution, avancée en 2019, vous vous en souvenez peut-être, dans une proposition de loi socialiste, vise à rendre aux consommateurs, sous forme d'une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu. Et à ce propos, j'ai justement un édito, je vous la mets, l'édito, hein. Sébastien Lornoux, fausse bonne idée. À peine les cours du pétrole ont-ils grimpé que le RN a ressorti sa mesure fétiche. Baisser les taxes sur les carburants pour soulager le portefeuille des automobilistes, notamment des classes populaires. La proposition a l'avantage d'être simple à comprendre, facile à appliquer, mais elle est truffée d'effets pervers. D'abord, son coût est astronomique. Baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, comme le préconise le RN, représenterait un manque à gagner de plus de 11 milliards d'euros. Bon, Maud Brejon, elle a dit 20, mais bon. Kevin, les comptes sont pas bons. Hein. Ensuite, rien ne dit que les Français verraient la différence. Écoutez ça. 1. Ça coûte un pognon de dingue. 2. Rien ne dit que les Français verraient la différence. Les distributeurs étant libres de répercuter ou non cette baisse sur les prix, ils pourraient en profiter pour gonfler leurs marges, comme l'ont fait les restaurateurs quand ils ont bénéficié de ce joli cadeau fiscal en 2009. Donc 1. Ça coûte beaucoup. Et 2. C'est pas forcément les Français qui en profitent. Enfin, toute ristourne à la pompe est une aubaine pour les plus riches, incitée ainsi à rouler davantage. En 2022, ça l'avait montré, face à la flambée du prix du baril à l'époque, le gouvernement avait mis en place une remise jusqu'à 30 centimes par litre de carburant pour une facture de 7,5 milliards d'euros. Quelques mois plus tard, l'INSEE publiait une étude pour en mesurer l'impact. Résultat, en moyenne, ce coup de pouce avait permis d'éviter un surcoût de 51 à 80 euros par ménage, sauf que pour les 25% les plus aisés, la ristourne avait allégé la facture de 64 à 115 euros, quand le quart des plus modestes n'avait économisé que de 29 à 48 euros. Bref, arroser large revient cher, et ce n'est pas le meilleur moyen de toucher sa cible. S'il veut prendre une mesure efficace, écrit ce matin Le Parisien, le gouvernement serait bien inspiré de ressortir plutôt le chèque carburant destiné aux ménages précaires expérimenté en 2023. Le Parisien nous dit que cette proposition du RN, elle est un peu électoraliste, un peu populiste, mais économiquement, elle tient pas trop la route. Après, il y a ce qu'on propose quand on est l'opposition, et il y a ce qu'on propose quand on est au pouvoir. Si le RN était au pouvoir, peut-être qu'il proposerait pas cette formule. Ou alors il le proposerait, mais au bout de quelques mois, on leur dirait, mais rends l'argent, quoi. Je voulais un petit peu, et on enchaîne. Suite aux déclarations, c'est pour ça que les marchés boursiers réagissent, c'est parce que Trump a... Qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Souvent, Trump, il dit des choses, et après, il tient ses promesses. Non, je parle. Trump affirme que la guerre en Iran est quasiment finie. Le président américain a déclaré lundi à une journaliste de la chaîne CBS que la guerre était quasiment finie. Mais quasiment, ça veut dire quand? Le chef d'État américain fait valoir que Téhéran n'avait plus de marine ni de communication ou de force aérienne. Mais ça, on le sait, mais depuis un petit moment déjà. Il a ajouté que le conflit était, sauf qu'en fait, le blocage du détroit d'Hormuz et les frappes contre les pays pétroliers, c'est avec des drones, ça n'a rien à voir avec la force aérienne, ni même avec la marine de l'Iran. Il a ajouté que le conflit était très en avance sur le calendrier de 4 à 5 semaines qu'il avait évoqué auparavant. Les cours du pétrole ont reculé suite à cette déclaration. Cela va se terminer bientôt, et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés. Ils, je pense que c'est les Iraniens. Trump a aussi menacé de frapper l'Iran beaucoup plus fort si les autorités du pays décident de bloquer l'acheminement du pétrole dans la région. Donc là, il dit que non seulement ça va pas s'arrêter, mais il va taper encore plus fort, non? Le président américain dit qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays, notamment la Russie, la guerre en Ukraine. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que cela s'arrange. Après, qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les remettre, a ajouté le président américain. On est en train de nous préparer à la levée des sanctions contre la Russie, quelque chose de bien. Il y a une petite musique là en ce moment qui dit ah ouais, mais alors, comme il n'y a plus de pétrole, il faudra peut-être lever les sanctions contre le pétrole russe et tout. Ok, à suivre. Il y a 2-3 jours qu'il y a cette petite musique là. En tout cas, vous avez les clés sur l'histoire du choc pétrolier. Est-ce qu'il y a un risque de choc pétrolier ou pas? Je trouve que le dossier de la Croix, je sais pas ce que vous en pensez, il est quand même super clair.